Dans la course de la vie, parfois on passe des checkpoints. Des checkpoints où on regarde si le temps qu'on a fait est bon. Mais ce matin, on ne va pas regarder le temps d'une course, on va regarder des aspects de notre vie, et un en particulier, notre humilité. Or, j'y dis mon pour que chacun puisse se poser soi-même la question. À tout moment de la vie, nous pouvons être tentés, parce que nous sommes des êtres humains, par l'orgueil. L'orgueil. Le tout premier péché que l'homme, Adam, a commis, celui de vouloir être comme Dieu et de s'émanciper de lui, l'orgueil. Et l'orgueil, ça peut frapper chacun d'entre nous. Non, les chrétiens ne sont pas épargnés par ce sujet, et même des années de foi peuvent parfois nous faire oublier des considérations élémentaires que nous avions peut-être au début de notre marche chrétienne, et puis avec le temps, parce qu'on a pris la confiance, on peut tomber dans le piège de l'orgueil. Alors une petite anecdote qu'un ami m'a rapportée, et que j'ai trouvé intéressante, et que je place là dans le message. Quand j'étais étudiant à l'Institut biblique, j'ai un ami proche qui s'est retrouvé à discuter avec Henri Blocher. Alors Henri Blocher, c'est qui pour ceux qui ne le connaissent pas? C'est un théologien français très très reconnu mondialement. Il a écrit des livres qui ont été assez réputés et qui est très réputé en France notamment. Par exemple, quand les catholiques font des séminaires théologiques et qui veulent le point de vue d'un évangélique, c'est lui qu'ils invitent. C'est pour dire à quel point le monsieur pèse dans le game, comme on dit. Il est là et il est important. Et donc, mon ami lui parle, lui dit « Mais monsieur Blocher, comment se fait-il qu'avec votre connaissance, votre intelligence que le Seigneur vous a donnée, votre érudition, vous soyez autant humble? C'est quoi la clé ?» On pourrait s'attendre à prendre de l'importance, à « Bon, je suis quelqu'un d'important », etc. Et Henri Blocher de lui répondre « Vous savez, plus j'étudie la parole et plus je me rends compte à quel point je suis petit et à quel point Dieu est grand. Et c'est ça qui nourrit mon humilité. Je ne peux pas me permettre de me considérer comme important alors que toute la Bible m'enseigne que je ne dois pas l'être. » Et ça, ça l'avait profondément marqué et il me l'avait reporté. Des paroles sages. Même les disciples du Christ ont été concernés par la question de l'orgueil. C'est plusieurs moments dans l'Évangile où ils se demandent « Lequel d'entre eux est le plus grand ? Lequel de nous va être assis à ta droite ?» Ils veulent la place la meilleure. Alors considérons ce matin ce rappel important. L'Éternel s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5,5. Alors, je nous invite, pour nourrir notre réflexion, à nous pencher sur une courte parabole du Seigneur que l'on trouve en Luc chapitre 18 et dans laquelle Jésus présente deux types de personnes qui prient avec des attitudes différentes. La première va prier en considérant quelle est une bonne personne, et la seconde qu'elle n'est pas une bonne personne, et on va voir que cette nuance a une grande importance. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Luc au chapitre 18, et nous allons lire les versets 9 à 12. Donc c'est Jésus qui parle. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait intérieurement cette prière. « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne deux fois par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. » Et on va d'abord s'arrêter là. Alors que le Seigneur est en route vers Jérusalem pour y accomplir la dernière phase de son ministère, Jésus va utiliser une parabole pour faire réfléchir ses auditeurs. Dans les versets qui précèdent, le Seigneur a donné une autre parabole sur le fait de prier avec insistance. Et le fait que cette insistance est l'expression d'une foi qui est persévérante. Donc le Seigneur a enseigné le fait de prier avec persévérance. Jésus reste donc dans le thème de la prière, mais avec deux autres attitudes. Et la première, elle concerne un pharisien. Alors un pharisien, quel que c'est, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un juif qui est particulièrement rattaché à l'étude et à la mise en pratique de la loi de Moïse, ainsi que de la tradition des ancêtres. Ça veut dire qu'il respecte scrupuleusement la loi, mais qu'en plus, il respecte des conditions complémentaires que les anciens ont ajoutées à l'écriture, des règles supplémentaires, pour bien protéger tout ça, bien cadrer le tout. Ils sont donc très attachés aux exigences de pureté de l'Ancien Testament, au point même d'appliquer à la vie quotidienne les règles que la loi exigeait des seuls prêtres pendant leur service au temple. Donc eux ne sont pas prêtres, mais en plus ils vont se mettre à obéir aux règles des prêtres. Donc là on est vraiment dans des gens qui sont très légalistes et qui suivent scrupuleusement la loi et qui en ajoutent même. Ce sont donc des personnes qui avaient une certaine influence au sein de la population à cause de leur présence au sein du temple, de leur bonne connaissance de la loi et de leur rigueur morale et rituelle. Ils étaient très rigoureux. C'était des gens qu'on voyait, qui étaient visibles et dont peut-être certains souhaitaient s'inspirer. Donc ce pharisien est monté au temple pour prier et le contenu de sa prière nous est décrit. Premièrement, il remercie Dieu. Ah, ça commence bien, les remerciements. C'est vrai que nous, parfois, on ne commence pas toujours nos prières par des remerciements. On passe tout de suite aux demandes et aux supplications. Seigneur, je te prie pour que, etc., etc. Mais parfois, c'est bien de commencer aussi par des remerciements. On a chanté cette semaine à la réunion de prière, « Comptez les bienfaits de Dieu », de s'arrêter pour compter les bienfaits de Dieu. Merci Seigneur, car je peux manger à ma faim tous les jours. Merci Seigneur, car j'ai un toit sur ma tête. Merci Seigneur, car j'ai un lit où me reposer. Merci Seigneur, car j'ai un travail. Il y a plein de raisons de remercier le Seigneur. Et puis parfois, on les oublie parce que c'est devenu notre quotidien classique. On les a acceptés. On oublie que dans certains pays, ce n'est pas des choses normales. Hein. Remercier le Seigneur. On devrait tous commencer nos prières par la reconnaissance avant de faire des demandes, je le crois. Le pharisien semble avoir conscience de l'action du Saint-Esprit dans son cœur. Il remercie Dieu. Mais la suite va nous montrer que l'enrobage de sa prière cache autre chose. Il remercie Dieu de ne pas être comme les autres, en particulier comme l'autre là-bas. Aïe, ça dérape complètement. Le remerciement n'était en fait qu'une façade. Maintenant, il se compare aux autres. Moi, je suis bien. Les autres ne sont pas super. Hein. Derrière cette comparaison se cache une haute considération personnelle. En fait, je m'en sors pas si mal. Je suis plutôt une bonne personne. Quand je regarde les autres, la vie qu'ils mènent, moi, je suis quelqu'un de bien. C'est la troisième étape de sa prière. Moi, je. Il se réclame de cinq choses qui l'élèvent à ses propres yeux, mais le conduit aussi au mépris des autres. Je ne suis pas avare. Je ne suis pas malhonnête. Je ne suis pas adultère. Au contraire, moi, je jeûne deux jours par semaine et je donne 10% de tous mes revenus. Moi, je. En fait, sa prière est centrée sur lui. Il est en train d'énumérer ses propres mérites moraux et ses propres réalisations dans sa vie religieuse. Mais dans quel but ? Est-ce qu'il cherche à se faire mousser par le Seigneur ? Ah oui, tu es vraiment quelqu'un de bien. Ou est-ce qu'il cherche à se féliciter personnellement en prenant Dieu à témoin ? Ah Seigneur, tu as vu, hein ? Moi je suis vraiment quelqu'un de bien. Allez, disons-le, je suis un peu exceptionnel quand même. La prière, c'est l'expression de la confiance en Dieu. Mais notre pharisien, lui, la confiance en Dieu, en fait, il n'en a pas besoin. Parce qu'il se confie en lui-même et c'est suffisant. Il montre ses réalisations propres à Dieu comme des hauts faits qu'il aurait accomplis et qu'il accomplit encore. Moi, je. Par sa démarche, il se satisfait de son propre cœur. Il n'a pas besoin de Dieu puisqu'il s'estime suffisamment bon. En fait, il est étranger à Dieu et à sa bonté. Au lieu de se mesurer à l'échelle de la perfection de Dieu et de découvrir combien il est pécheur, en fait, il se compare à l'échelle des autres et s'enorgueillit d'en être le meilleur. Extérieurement, c'est impeccable. On le voit, grande piété, il fait même des choses supplémentaires, sûrement quelqu'un de très bien extérieurement. Il est très porté sur l'écriture, il a un respect scrupuleux des règles, une piété exemplaire qu'on aimerait tous copier. Quel homme de Dieu, sûrement certains se disent. Ah, la tentation. Il y a beaucoup de gens qui ont une très haute considération des serviteurs de Dieu, parfois même en considérant qu'ils pourraient presque prendre la place de Dieu tellement ils sont importants et tellement ils sont parfaits. En fait, ils sont parfaits de ce qu'ils vous montrent, mais on ne sait pas toujours ce qu'il y a dans le cœur. Des événements ont montré en fin de semaine dernière qu'un pasteur mis sous les projecteurs en France cachait en fait bien des choses sombres, à tel point qu'il s'est retrouvé incarcéré. Extérieurement, c'est impeccable. Quel homme de Dieu ! Mais seuls les humains s'y trompent, car Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. À l'intérieur, le légalisme est désastreux. Il se croit proche de Dieu, mais en fait, il est très loin de lui. Et on va s'intéresser maintenant à une autre attitude. Je ne suis pas une bonne personne. Luc 18, verset 13, lisons la suite de la parabole. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis !» Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. L'attitude du second protagoniste, elle contraste avec le premier. Lui, il se tient dans un coin retiré. Il n'est pas venu pour se montrer. Il est venu pour parler à son Dieu, parler à son Seigneur. Et pour ça, il n'a pas besoin que des gens le voient. Il se met dans un coin retiré parce que ce qu'il a à lui dire n'est pas glorieux. Deuxièmement, il n'ose même pas lever les yeux au ciel parce qu'il est écrasé par le sentiment de son indignité. Il a conscience de ce qu'il est. Il éprouve même probablement de la honte. Il se frappe la poitrine. C'est un signe pour les Juifs de lamentation qui est dû ici à quelque chose de très important pour le chrétien. La repentance. Le collecteur d'impôts a conscience de sa situation devant celui qu'il prie. il sait qui il est. Il sait qu'il ne peut qu'implorer le pardon de Dieu. Et il murmure. Il murmure en implorant la grâce du Seigneur. Alors oui, il n'est pas dans un remerciement, cherchant à chosifier sa relation avec Dieu. Il est dans la détresse de sa situation réelle devant son Créateur. Ce n'est qu'un pécheur indigne de se tenir devant l'Éternel. C'est ça sa réalité. Contrairement aux pharisiens, lui, il ne regarde pas aux autres, il regarde à son cœur. Il ne se considère pas comme un pécheur parmi d'autres, cherchant à évaluer est-ce qu'il est plus ou moins pécheur que d'autres, en cherchant à se dire peut-être que je me place plutôt bien quand même. C'est pas parfait, mais je m'en sors. Non, il se considère comme le pécheur indigne de toute faveur divine. En fait, il a parfaitement conscience de sa situation. C'est un pécheur. Le texte ne nous dit pas si les accusations du pharisien à son égard, elles sont justifiées. On ne sait pas si le collecteur d'impôts est quelqu'un d'avare, s'il est malhonnête ou s'il est adultère, comme le dit de lui le pharisien. Car pour nous, ce sont des accusations qui sont quand même graves. Et on serait peut-être tenté de prier, nous aussi, « Merci Seigneur de ne pas être comme lui, de ne pas être comme elle. » Mais en fait, le texte ne le dit pas parce que ce n'est pas le sujet de la parabole. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout le monde est pécheur. C'est ça la réalité. Alors certains, peut-être plus que d'autres, mais la question en fait n'est pas là. Parce qu'en tant que pécheur, que ce soit un petit ou un gros pécheur, nous sommes tous condamnés. Point final. Et c'est ce que développe très bien l'apôtre Paul dans les 8 premiers chapitres de l'Épître aux Romains. On ne va pas lire les 8, évidemment. Mais déjà, lisons ensemble Romains 2, versets 1 à 6, et Romains 3, versets 10 à 18. Romains 2, 1 à 6, 3, 10, 18. Toi donc, qui que tu sois qui condamne autrui, tu n'as aucune excuse. Car en condamnant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui les condamnes, tu te conduis comme eux. Or, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. T'imaginerais-tu, toi qui condamnes ceux qui commettent de tels actes et qui te comportent comme eux, que tu vas échapper à la condamnation divine ? Ou alors méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer ? La repentance produit le changement. Radical. Par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. Ce jour-là, il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Ah, c'est moins drôle d'un coup, hein. Allons un peu plus loin, chapitre 3, versets 10 à 18. L'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Ça, c'est un texte très fort. En fait, il n'y a personne sur terre qui est juste. Sans Jésus-Christ, le paradis, il est vide. Il n'y a personne qui y va. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui se tourne vers Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Leur gosier ressemble à une tombe ouverte. Leur langue sert à tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine d'aigres malédictions. Leurs pieds sont agiles quand il s'agit de verser le sang. La destruction et le malheur jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils n'ont même pas peur de Dieu. Le tableau de l'humanité est inquiétant. L'apôtre Paul est très clair sur le sujet. Nous sommes tous sous la juste colère de Dieu. Il n'y en a pas un qui peut venir prétendre Ouais, quand même, moi je m'en sors bien, hein. J'ai pas volé, j'ai pas fait ci, j'ai... Oui, une fois, j'ai fait un petit mensonge, mais franchement, c'était pas bien grave. Jacques dit que si on désobéit à un commandement, on désobéit à toute la loi. Raté. Il est pécheur, notre collecteur d'impôts, mais il y a une donnée à considérer. C'est l'amour et la compassion de Dieu, qui est très grande. Si nous sommes justement condamnés à cause de notre état de pécheur, alors on ne peut pas compter sur soi-même pour se sauver. On ne peut compter que sur la miséricorde de Dieu pour nous sauver. Alors que rien ne l'y obligeait, Dieu a décidé de nous sauver exclusivement à cause de l'amour qu'il nous porte. Il n'y a pas d'autre critère. C'est parce qu'il nous a aimés le premier, nous des pécheurs rebelles à lui, que nous sommes sauvés uniquement. Il y avait un chant américain qui parlait de l'amour extravagant de Dieu, l'amour inconditionnel. Car qui irait sauver quelqu'un qu'il n'aime pas, quelqu'un même qui est décrit comme un ennemi de Dieu? Ah ben Dieu l'a fait. Il a sauvé, il nous a sauvés là, nous qui étions ses ennemis, uniquement par amour. La troisième notion, c'est la grâce. J'ai oublié d'avancer. L'amour et la compassion de Dieu et la grâce. Dieu change notre statut légal, qui est de condamner, c'est déjà plié avant même le jugement, qui est de condamner, et il le change en justifié, par grâce. C'est un don qu'il nous offre parce qu'il nous aime. On va bientôt rentrer dans la période de Noël. On n'offre pas des cadeaux parce que la personne les mérite. On offre parce qu'on aime la personne. On veut lui faire plaisir. Voyez la distinction? C'est un cadeau que Dieu nous offre parce qu'il nous aime. Pour autant, Dieu n'a pas fermé les yeux sur notre condamnation. Il n'a pas dit, oh, pff, allez, on va faire comme si c'était jamais arrivé, c'est oublié, ou alors je vais jouer là. Ah, ah, j'avais pas vu. Ah, t'as de la chance. T'es passé à la trappe. Mais si Dieu fait ça, il est menteur. Parce que Dieu sait tout. Et Dieu voit tout. Il connaît tout. Non, Dieu n'a pas fermé les yeux sur notre condamnation. En fait, notre condamnation, il l'a rapportée sur quelqu'un d'autre, sur ce qu'il a de plus cher, son Fils unique Jésus-Christ. Qui d'entre nous, il y a des parents là dans la salle, prendrait son enfant pour que son enfant aille prendre la condamnation d'un ennemi? Celui qui lève la main, je lui dis menteur. Moi, je ne le ferai pas. Eh bien, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Encore une fois, parce qu'il nous aime. Et il l'a fait non pas parce qu'on le mérite, il l'a fait par grâce. La seule chose qu'on mérite, c'est la condamnation. Ça, c'est sûr. Mais c'est comme ça que Dieu change notre statut de condamné à justifié. Il peut nous déclarer juste car notre condamnation a été subie. Quelqu'un l'a subie pour nous. C'est Christ qui est mort à notre place pour nous sauver. Pour être au bénéfice de la rédemption que Christ nous offre, il y a une condition majeure. Il faut croire. Croire que c'est vrai. Croire que Jésus est le Fils de Dieu. Croire qu'il est venu sur terre pour vivre la vie de parfaite obéissance à notre place. Dieu a totalement accompli la loi. Croire qu'il est mort pour que sa mort nous donne la vie et croire qu'il est ressuscité pour notre justification. Le salut, il est là. Mais attention quand on parle de croire. On parle d'une foi authentique, sincère. Pas juste une réception intellectuelle. Ah oui, l'idée, elle me plaît, c'est sympa. Et non. Il faut croire que c'est vrai. Et la foi authentique, elle produit des actes. Elle porte du fruit. C'est à ça qu'on la reconnaît. Et c'est ce que développe Paul de manière absolument magistrale, où il développe la puissance de l'évangile en ces quelques lignes, en Romains 3, 21 à 28, que vous connaissez sûrement. Mais maintenant, Dieu a manifesté sans faire intervenir la loi la justice qu'il nous accorde et à laquelle les livres de la loi et des prophètes rendent témoignage. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, la condition dont je vous ai parlé, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché en effet et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Ce n'est pas un cadeau qui n'a rien coûté, hein, qu'on soit bien d'accord. Pour nous, on le reçoit gratuitement, mais à celui qui l'offre, ça a coûté ce qu'il y a de plus cher. C'est lui, donc Jésus-Christ, que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Dieu montre ainsi qu'il est juste, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Il montre aussi qu'il est juste dans le temps présent. Il est juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Alors, pouvons-nous faire comme le pharisien? Reste-t-il encore une raison de se vanter? Non, cela est exclu. En vertu de quel principe? Celui de l'obéissance à la loi? Non. Selon le principe de la foi. Voici donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Amen. Quel développé. C'est quelques versets très connus. Quand on s'arrête dessus, ils sont extrêmement forts. En fait, c'est la clé de notre salut. Alors, le collecteur d'impôts ne connaît pas le Christ. C'est le propre d'une parabole. Mais son attitude nous enseigne sur la manière de considérer l'œuvre salvatrice de Dieu pour nous. La manière dont on doit la considérer. Nous ne méritons pas cette grâce, car ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent. On n'a pas mené une vie super qui fait qu'à la fin, hop, on obtient la récompense. C'est pas ça. Au contraire, la récompense qu'on mérite, sans Dieu, c'est la condamnation. Ça, c'est sûr. Mais Dieu a tout accompli pour nous sauver, parce qu'il nous aime d'un amour inconditionnel. Notre deuxième protagoniste nous rappelle l'humilité et la repentance en considérant notre état. D'un cœur sans fraude, il place sa seule confiance en Dieu. En fait, il n'a plus le choix. Il n'y a que Dieu qui peut le sauver de ça. La conscience, la prise de conscience de sa situation fait place à la repentance qui fait place à la confiance. Conscience, repentance, confiance. Voilà la juste attitude sincère qui plaît au Seigneur. C'est ce que dit aussi Jacques, hein, 4, verset 10. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. L'attitude qui plaît au Seigneur, c'est le cœur sincère, qui a conscience de ce qu'il est. En conclusion, j'ai lu la quatrième de couverture du prochain livre de Michael Razzano, où il écrit ceci et que j'ai trouvé très intéressant. En lisant la Bible, nous prenons conscience que notre force ne se trouve pas dans notre performance humaine, mais dans notre dépendance à Dieu. Prenons conscience que notre force ne se trouve pas dans nos performances humaines, mais dans notre dépendance à Dieu. C'est pour ça que Henri Blocher disait, plus je creuse ça là, et plus je me rends compte à quel point je suis petit. L'humilité est une attitude qui plaît au Seigneur. Elle reflète notre cœur d'homme pécheur et imparfait devant celui qui est trois fois saint. Mais gare attention à la fausse humilité, qui est un orgueil déguisé. Non, l'humilité implique de la sincérité, de l'authenticité, car on ne peut pas tromper le Seigneur. On peut tromper ceux qui nous entourent, ceux qui nous voient, en leur faisant croire une belle piété, etc. Mais le Seigneur, lui, sait ce qu'il y a là-dedans. Et c'est ça qui compte pour lui. En grandissant dans la foi et dans la connaissance de l'Écriture, notre humilité devrait, elle aussi, grandir. Plus nous prenons conscience du gouffre qu'il y a entre notre imperfection et la sainteté de Dieu, et plus nous considérons aussi notre besoin de Dieu et de revêtir le salut qu'il nous a acquis en Jésus-Christ. Et ça, c'est intéressant, car on en a un exemple extraordinaire dans l'Écriture, le Christ lui-même. Philippiens 2, 6, 11. Lui, Jésus-Christ donc, qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Amen.